Du journal L'Équipe, tous les dessins humoristiques depuis 100 ans. Donc c'est une manière de revivre la vie à travers le sport. J'ai reçu le tome 2 de la Pléiade des œuvres de Romain Gary, ce qui n'est pas rien. J'ai reçu une très belle pièce de théâtre, Ibsen, Peer Gynt, parce que dedans il y a une des héroïnes qui s'appelle Solveig, et c'est le nom de ma petite fille, donc on s'est pas gêné. Oui, je vous raconte ma vie. Maradona, la suite, vous voyez. Ça, c'est ma fille qui a entendu la prédication et qui, du coup, s'est dit, hop, pour papa, c'est Maradona. Un très beau livre de théâtre, Le théâtre des idées, Antoine Vitesse, grand théoricien du théâtre. Donc ça, c'est un livre pour un télo, ce que je ne suis pas, mais bon, les gens ont cru que. Là, un livre qui en fera sourire certains, Le potager du paresseux. Parce que je suis censé faire un potager depuis 5 ans. On m'a tout préparé, mais je n'ai pas planté une graine, parce que je ne sais pas, pour moi c'est compliqué. Et donc, voilà. Et enfin, une BD, Torgal, grand moment. Et donc, je me suis dit, en recevant tout ça, bah, c'est un résumé du génie humain. Il y a les arts, théâtre, musique, littérature. Il y a aussi la façon de mieux vivre par l'agriculture, hein. Et puis aussi la manière de passer le temps par le sport, de se sublimer, d'aller au fond, au bout de ses possibilités. Tout ce génie humain qui permet de mieux comprendre, de mieux accepter, de mieux occuper le monde, notre monde, le temps de notre passage. Et puis il a fallu que je range tout ça. Parce que ça, je ne vais pas où mettre. Et donc je suis monté, j'ai plein de bibliothèques chez moi, pour ceux qui connaissent. Et j'en ai une spéciale dans ma chambre, qui est très grande, où j'ai tous mes livres chrétiens. Depuis 40 ans, donc je ne sais pas, je dois avoir une étagère entière. Et quand j'y vais, l'étagère se brise, se casse en mille morceaux. Ça a été là depuis trop, trop longtemps. Donc ça va. Donc évidemment, je ramasse ce qui tombe. Et parmi tous les livres que je n'ai pas eu depuis très longtemps, apparaît un vieux livre, très, très abîmé. Voilà, vous voyez ce qu'il en reste. Et ce livre, c'est une Bible. Les Bibles, j'en ai plein à la maison, des grosses, des petites, différentes traductions, même des livres en BD. Mais cette vieille Bible, elle est très spéciale, parce qu'en fait, c'est la Bible en un an. Que vous connaissez peut-être, c'est une Bible où on peut lire toute la Bible, jour après jour, et à la fin de l'année, on a tout lu. Et au moment de ranger tous les autres cadeaux, parce que je n'ai pas d'autre place de bibliothèque, mais je me suis dit, le plus beau cadeau que j'ai reçu de ce Noël, c'est ça. C'est ce vieux truc, complètement pourri, qui est tombé, au sens littéral du terme, dans mes bras, et que j'ai récupéré. Et sur ma table de nuit, eh ben, ces livres-là, ils n'y sont pas. Ils sont posés ailleurs. Le seul que j'ai mis sur ma table de nuit, c'est celui-là. Et ce n'est pas une image de style, c'est vraiment vrai. Celui que j'ai eu envie de lire, alors les autres, je vais les lire, je les redécouvre, mais c'est celui-là qui soudain m'a fait apparaître que de tous les cadeaux, c'était le plus précieux. J'enfonce des portes ouvertes, mais le 3 janvier, c'est le moment d'enfoncer les portes ouvertes et de rappeler des choses essentielles. Alors évidemment, quand je vais lire les dessins de l'équipe, ça va me faire rire. Quand je vais lire le théâtre de Vitesse, ça va me faire réfléchir. Quand je vais lire le Peer Gynt d'Ibsen, ça va me faire pleurer. Quand je vais lire le potager du paresseux, ça va me faire envie. Quand je vais lire la BD de Torgal, ça va me faire rajeunir. Quand j'ai lu le livre sur la vérité de Maradona, ça va me faire me souvenir. Quand j'ai lu le Pléiade de Romain Gary, ça va me faire m'évader à travers ces histoires extraordinaires qu'il raconte. Mais ma vieille Bible, complètement pourrie, qui est tombée de mon étagère, elle va me faire vivre. Et ça m'a bluffé au moment où je l'ai retrouvée. Parce que chaque jour, c'est ça qui va me nourrir, qui va me désaltérer, qui va me faire grandir. Aucun livre, aucun autre livre, aussi merveilleux soit-il, et Dieu sait si, par exemple pour Romain Gary, j'ai une admiration sans borne, quel talent, aucun de ces autres livres ne peut accomplir tout cela. Et à l'aube de cette nouvelle année, au moment de faire des vœux, de prendre des résolutions, en effet, qui ne tiennent pas très longtemps, que me souhaiter de mieux, que nous souhaiter de mieux que de recevoir chaque jour un peu d'éternité et un peu d'espérance. Au-delà de la plantation des tomates, ou d'une belle page de littérature, ou d'un beau dessin qui nous fera rire. Mais alors, pourquoi dire ça? Pourquoi relire un livre que je connais déjà? Parce qu'évidemment, s'il est dans un tel état, je ne suis pas non plus le roi de la... Il ne faut pas croire, j'ai dû lire en tout depuis 30 ans, j'ai dû faire trois fois le tour. Puis après, voilà. Mais pourquoi relire? À part ça, je l'ai lu, je lis ma Bible, voilà, je connais. Pourquoi relire un livre qu'on connaît déjà? C'est la question que je vous pose. C'est très rare de relire un livre. C'est très, très rare. J'en ai plein dans ma bibliothèque. J'en ai... Et quand je me dis qu'il faut que je fasse le vide, allez, lequel j'aurais envie de relire? Alors finalement, j'en jette très peu. Parce que je dis, ah ben non, c'est trop beau ça. Mais finalement, je ne les relis jamais. Parce que je connais la fin. Parce que je connais tout, je sais ce qui va se passer. Alors, parfois, je reprends, je lis une page, parce que je sais, mais je ne relis jamais un livre. Mais ils sont là, comme des amis, comme des frères, comme des sœurs, comme des compagnons de mon existence. Puis je sais que quand je serai mort, vous savez tout ça, quand on va chez des personnes plus âgées, même de notre propre famille, première chose qu'on fait, on vit la bibliothèque, on prend un livre, puis le reste, on dit, bah, qu'est-ce que j'en fasse? On donne, parce que ça ne nous dit rien à nous. Ça dit à la personne qui les a partagés. Et. C'est comme un match de football, on dit tu ne vois pas, tu le regarderas enregistré. Ben non, si je connais le score, le match n'a plus aucun intérêt. Comme un film, il n'y a pas d'effet de surprise. Mais la Bible, c'est différent. La Bible, il y a toujours un effet de surprise. La Bible, il y a toujours une raison pour la relire. J'allais dire pour la lire. Alors, puisque je vous parle de ça très très rapidement, alors évidemment, je parle à des gens qui savent. Mais quand même, je ne fais pas du tout un cours spécifique sur ça, parce qu'il faudrait des heures et des heures. Il y a ici des gens beaucoup plus pointus que moi. Donc vous savez que la Bible, dans le monde chrétien, c'est la somme de deux livres. On appelle l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est les écrits, pour faire très rapidement, du peuple juif. Et puis le Nouveau Testament, ça raconte l'histoire à partir de la naissance de Jésus. Ces deux livres ont été mis ensemble. On pense que les livres de l'Ancien Testament auraient été écrits entre le 8e et le 6e siècle avant Jésus-Christ. Bon, là, et les livres de le Nouveau Testament entre le milieu du 1er siècle et le début du 2e siècle. Tout ça a été réuni. Alors, il y a la Septante, il y a la Vulgate, il y a plein de choses, mais ça, c'est très très complexe. Pour arriver à ce livre chez les protestants qui fait. En fait, Bible, ça veut dire les livres, 66 livres. Chez les catholiques, il y en a 3 ou 4 de plus. Et ça s'appelle le canon, voilà. On considère que ce livre-là, en tant que tel, depuis maintenant depuis maintenant 2000 ans, est le livre des chrétiens, est le livre sacré, est le livre qui raconte l'histoire de Dieu, des débuts, la Genèse, de la création du monde, jusqu'à la fin du monde, l'Apocalypse, et les débuts des nouvelles terres avec tout qui annonce l'arrivée, la naissance de Jésus. Ça fait 31 102 versets, donc vous voyez, il y a de quoi lire en effet. Là, je vous ai amené 8 livres, en tout, là, il y en a 66. Et je voudrais juste pour faire très rapidement, parce que ce n'est pas l'objet du tout, je ne suis pas étudié, voilà, qu'on regarde, merci Gilles, pour que vous compreniez comment ça se. Je sais que tout le monde le sait, il y a peut-être certains qui ne le savent pas bien, ou qui l'ont oublié, je ne sais pas, juste pour qu'on voit bien de quoi ça parle. Donc, il y a une forme d'équilibre entre les deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Donc, il y a toujours une base. L'Ancien Testament commence par le Pentateuque, les 5 livres du début, hein, Genèse, Exode, Deutéronome, etc., les Lévitiques, qui sont la base de la croyance, puisque c'est là où Dieu commence tout, fait la terre. Et dans le Nouveau Testament, c'est les Évangiles qui racontent Jésus. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les livres d'histoire, donc les livres historiques. Il y en a 12, Josué, etc., dans l'Ancien Testament. Et parallèlement, il y a les Actes des Apôtres qui racontent l'histoire de l'Église. Ensuite, il y a les livres de doctrine, donc qu'on appelle. Donc il y a les livres poétiques, 5 livres dans l'Ancien Testament. Il y a les Épîtres, 21 livres. Et puis ça se termine par les prophéties, les livres prophétiques dans l'Ancien Testament, Daniel, etc., et l'Apocalypse. Voilà. Donc il y a une espèce de parnisse. Qui permet de déjà, quand on veut voir la Bible en grand, de se dire il y a une forme de logique dans la construction qui a été faite de la réunification de ces différents livres. Merci Gilles. Voilà, c'était juste ce petit rappel très très rapide, parce que quand on parle de la Bible. Ça ne vient pas de n'importe où, j'ai dit d'où est-ce que ça venait et comment c'est à peu près construit, à peu près écrit. C'est important de s'en souvenir. Alors évidemment, la Bible n'a pas toujours existé en tant que telle. Et puis, surtout, elle n'a pas été à la disposition des gens. Jusqu'au début du XXe siècle, en gros, on va dire, au moins dans nos pays occidentaux, tout le monde ne savait pas lire. Chaque personne n'en possédait pas une, ça coûtait cher. Alors, précédemment, avant, évidemment, il n'y avait que quelques exemplaires. Et donc, on pouvait être un chrétien très épanoui sans lire la Bible chaque jour, évidemment. Puisqu'il y en a eu des millions et des millions, des millions avant nous, qui n'ont pas eu la chance que nous avons depuis finalement très peu de temps d'avoir une Bible à disposition et de pouvoir la lire. Et aujourd'hui, ça continue, les chrétiens persécutés, évidemment, qui souvent ne peuvent pas lire leur Bible. Mais ce n'est pas parce que on peut avoir cet argument de dire qu'il y en a tellement de chrétiens qui ont été chrétiens en lisant la Bible, en ne lisant jamais la Bible, en écoutant simplement quelques bribes qui leur ont été racontées, qu'on peut continuer à faire pareil. Il ne faut pas se priver du progrès et se priver de la chance qu'on a d'avoir ce document à disposition. Donc, encore une fois, on est une génération, on est depuis quelques générations tout à fait chanceuse et bénie d'avoir cet outil qui n'était pas du tout à disposition de 95% des chrétiens, si je fais un chiffre en gros, depuis le début de la Bible en tant que telle. Alors, il y a dans la Bible, il y a plein de textes passionnants qui donne envie de lire la Bible. Mais il y en a deux qui m'ont particulièrement, qui me forcent, au bon sens du terme, à lire la Bible. Évidemment, il y a le psaume 19:11, Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. C'est une phrase que l'on connaît, mais il faut la prendre au premier sens du terme. Je serre ta parole dans mon cœur, cette parole est devenue un objet. Et c'est ça qu'il faut serrer. C'est ça qu'il faut avoir contre soi. Il ne faut pas en faire quelque chose de simplement symbolique. C'est un objet. C'est toujours mieux d'avoir son doudou que de l'imaginer. J'ai mon doudou. Alors, il ne faut pas que ça devienne un objet, une relique. Ça peut être n'importe quelle Bible. On s'en fiche. L'important, c'est ce qu'il y a dedans. Mais de se déplacer avec sa Bible. Moi, quand je pars en voyage, j'ai toujours une petite Bible. Je la mets tout le temps dans mon bagage. Ce n'est pas que je l'ouvre tout le temps. Mais je ne peux pas partir sans. Si vous venez chez moi, dans toutes les pièces, il y en a beaucoup, parce qu'à une époque, on était très nombreux, donc dans chaque tiroir, j'ai mis une Bible, comme font plein de traditions, etc. Alors tout le monde se moque, personne ne la lit, mais peut-être que, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que l'objet, et ça pour ceux qui aiment les livres, l'objet livre est fondamental, c'est pour ça qu'on les garde dans nos bibliothèques, l'objet est important. Et là, c'est un cadeau. Le cadeau, c'est qu'on a un objet. Rappelez-vous, avant toutes les époques, les gens, ils se souvenaient de ce qu'on leur disait. Il y avait quelques personnes qui avaient la Bible, qui l'avaient lue, qui transmettaient oralement, on se souvenait. Donc là, je l'ai. Elle est à moi. C'est mon truc à moi. Ça va loin de serrer la parole dans mon cœur. Je serre la parole sur mon cœur. J'en fais un objet vivant. Je me l'approprie. Et le deuxième, c'est dans Deutéronome 17 à 20. C'est les instructions données par Dieu pour les rois d'Israël. Alors, vous allez me dire, oui, les rois d'Israël, mais nous sommes rois. Nous faisons partie de la royauté de Jésus. Donc, ce texte s'adresse à nous. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, ça va, afin que son cœur ne s'écarte pas et qu'il n'ait pas une grande quantité d'argent et d'or. Quand il s'assiera sur son trône royal, il écrira pour lui dans un livre un double de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer toutes les paroles de cette loi et toutes ses prescriptions pour les mettre en pratique, afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères, qu'il ne s'écarte pas de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses fils, au milieu d'Israël. Approprions-nous c'est pas une promesse, mais cet ordre, cette recommandation. Quatre instructions très importantes, quatre raisons. Apprendre à craindre l'Éternel. Moi, pour que, à l'époque, je craignais mon père, mais c'est quand je le voyais que je le craignais vraiment, au sens noble du terme, hein. C'est-à-dire, il faut être en rapport, en relation avec les gens, ou avec pour vraiment être confronté à la réalité de ce qu'on doit vivre. Donc, lire la parole de Dieu, c'est être confronté à Dieu et à ce qu'il représente, apprendre à le craindre. Ensuite, d'observer toutes les paroles de cette loi pour les mettre en pratique. Pratiquer une vie qui tienne la route, c'est aussi être au courant de ce qu'on nous demande de faire. Et pour ça, il faut toujours revenir à la source et lire ce qu'on nous demande de faire. Troisièmement, afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères qui ne s'écartent pas de ses commandements, ça nous donne un rapport à l'autre qui est extrêmement important. C'est-à-dire que la lecture de la Bible, d'une manière ou d'une autre, va nous mettre en rapport avec l'autre. Et notre vie de tous les jours, elle est, même en plein confinement, elle est dans le rapport à l'autre. Et enfin, qu'il prolonge les séjours dans son royaume, cette lecture de la Bible, cette lecture des lois de Dieu, elle va prolonger nos jours sur terre, mais aussi, évidemment, après. Parce que c'est en étant dans sa parole qu'on rentre dans son royaume. Donc, ces instructions données au roi d'Israël, moi, elles m'ont toujours parlé, elles me disent quelque chose à moi, elles nous disent quelque chose à nous. Parce que cette Bible, c'est le socle de notre foi. C'est une chance. Croire, c'est une folie. C'est absurde, vous en parlez avec les gens à l'extérieur, ça n'a pas de sens, on est d'accord. Mais la seule chose, moi, qui me permet de répondre aux gens qui disent « tu crois à Dieu », etc., écoutez, à un moment, je ne sais plus quoi dire, mais j'ai ça. J'ai quelque chose. J'ai quelque chose qui fait appel à mon intelligence, qui fait appel à mon sens du toucher, à mon sens de tout. Enfin, voilà, j'ai un objet. Soyons heureux d'avoir cet objet pour vivre notre foi et puis aussi pour pouvoir la partager. Et quitte à croire quelque chose, parce qu'on peut croire à ce moment-là les arbres, le vent, etc., mais moi, nous, on peut croire quelque chose qui est écrit, qui n'est pas du vent. Alors, vous savez que Luther disait « sola scriptura », c'est-à-dire la Bible seule. C'est-à-dire, on veut bien croire à quelque chose, mais tout ce qui est dans la Bible, que dans la Bible. Alors que les catholiques, vous savez, ils rajoutent des choses, la tradition, les écrits des pères de l'Église, les bulles du pape, etc. Là encore, mon propos n'est pas là. Mon propos, c'est de toujours revenir à cet objet. Non pas pour, parce que c'est un objet, mais pour ce qu'il contient, parce que c'est notre force. Si on est là aujourd'hui, ce matin, c'est parce qu'on a tous eu ça à un moment dans nos mains. C'est parce qu'on l'a tous lu. En entier ou par petits bouts. C'est parce que quelqu'un nous l'a donné, ou l'a donné à quelqu'un qui m'en a parlé. C'est notre témoin, comme dans une course. Vous savez, là, Paul dit, je vais passer le témoin. Mais c'est ça le témoin. Il ne l'avait pas, lui, parce que c'était pas encore écrit. Ils n'avaient que les textes de l'Ancien Testament. Nous l'avons, ce témoin. Ne le lâchons pas. D'abord parce que ça nous tient bien là la main, puis ça permet de tendre quelque chose à quelqu'un. Et le risque de s'éloigner de la Bible, au sens de l'objet de la Bible, c'est de créer notre propre religion adaptée. C'est à force de s'entendre parler les uns les autres, d'entendre des discours, de lire des prédications. C'est très bien. Mais ça devient l'homme qui a vu l'ours, qui a vu l'ours, qui a vu l'ours, qui a vu l'ours, qui a vu l'ours. Et à la fin, l'ours, il ressemble à une panthère, quoi. Je ne sais plus, quoi. Et on va se créer notre propre ours à nous. Alors qu'il faut revenir sans cesse à cette base-là. Sans cesse, sans cesse. Sinon, c'est plus le même Dieu. C'est nous qui nous le faisons à notre image. Ça devient du New Age, ça devient ce qu'on veut. Mais c'est plus notre foi. C'est plus ce que nous partageons. C'est plus ce qu'on a chacun dans notre regard qui fait que t'es mon frère, t'es ma sœur, je le sais. Et quand on rencontre des gens qui ne sont pas chrétiens ou pas convertis, on voit qu'il n'y a pas la même lumière parce qu'il y a paf. Parce que on est tous encore, on n'est pas sur le même ours. Et c'est pourquoi il est dit dans ces quatre recommandations au roi, lire chaque jour. Chaque jour. Même le roi d'Israël, et pourtant ce n'était pas énorme ce qu'il devait lire, parce qu'a priori c'était l'étape de la loi, hein. Ça n'allait pas plus loin. Chaque jour. Alors dans d'autres cultes chrétiens, chez les orthodoxes, chez les catholiques, encore une fois ce n'est pas des attaques, hein, c'est juste des manières de voir, c'est plus de l'écoute que de la lecture. Moi j'étais catholique très longtemps, on allait à la messe le dimanche, et là il y a le prêtre qui lit deux lectures, Ancien Testament, Nouveau Testament. Et on était nourris par ça, et pour beaucoup, ça suffisait. Alors que chez nous, les protestants et chez les évangéliques, c'est presque devenu un dogme. Est-ce que tu as lu ta Bible ? Tu ne lis pas ta Bible, tu es un peu quelqu'un qui passe à côté de quelque chose. C'est difficile de lire sa Bible chaque jour. On manque de temps, on manque de... Et puis on ne comprend pas. Et puis on commence par quoi ? On a l'impression de se dire, oui, bah, comme creuser un trou pour une piscine, on se dit, mais j'ai mon premier coup de pelle, mais avant que je termine le trou, c'est trop long, donc on ne creuse même pas le premier coup de pelle. C'est dur de lire sa Bible. On en parle, la parole, on en parle, mais qui va lire sa Bible vraiment? Qui va arriver ici nourri de certitude et pas nourri de choses auxquelles il a pensé, qu'il a imaginé, il dit peut-être comme ça, ou on m'a dit, c'est intéressant. Mais là, ça devient un club de philosophie. Non, c'est marqué, c'est ça qui est important. Et c'est important de lire chaque jour. Et je vais vous dire pourquoi, à mon avis. J'ai eu 60 ans il y a très peu de temps. Ça, je suis très heureux d'être arrivé là, c'est une chance. Donc je bénis Dieu d'avoir déjà eu 60 années sur Terre, tout le monde n'a pas eu cette chance. Donc j'ai fait le compte, ça fait en gros 22 000 jours d'existence. Ça commence à faire beaucoup. Mais depuis très longtemps, j'ai toujours eu le sentiment, mais vraiment depuis jeune, très jeune, que chaque jour, non, c'est pas original ce que je dis, hein, c'est une vie à part, c'est une vie particulière. Comme vous savez, le film qui s'appelait Le jour sans fin, où ça recommençait, le matin, le gars, il va recommencer la même chose, etc. Mais en fait, nous vivons un jour sans fin perpétuellement. Chaque réveil le matin, c'est une naissance qui réclame une énergie folle pour sortir du lit. Alors, c'est pas aussi compliqué de sortir du ventre de sa mère, mais quand même, il y a des moments, quand on voit ce qui nous attend, allez, il faut se lever, il faut se bouger, toujours trouver la force, l'envie, le désir de partir à l'école, au collège, à la fac, au boulot, ou de s'occuper de ses enfants, des travaux de la maison, de la propriété, de l'assureur qui ne veut pas vous payer. Enfin, il y a toujours les mêmes obligations. Se laver, se nourrir, se soigner, et toujours le même besoin d'affermir son identité par ses actions. Qui je suis, comment je suis perçu, comment j'existe, qui je dois téléphoner. Toujours la même crainte du coup dur derrière nous, pourvu que c'est aujourd'hui, j'ai pas de problème, qu'il n'y arrive rien de grave dans ma famille, que ça soit un jour calme. Et toujours le même espoir aussi d'un événement fou, merveilleux, qui va nous arriver sur nos amours, sur notre travail. D'où les fureurs de l'horoscope, chez certains qui se disent aujourd'hui, ça va être le jour où il va se passer un truc dans ma vie. Et puis toujours la même fatigue le soir, avec les mêmes bilans positifs ou négatifs de notre journée. Et puis toujours le même sommeil qui revient comme un repos mérité, comme une forme de mort symbolique acceptée. On ferme les yeux et on oublie qui on est. Et puis peut-être qu'on ne se réveillera pas le lendemain. Et ça recommence le matin. Et ça recommence. Quand on y pense, moi j'y pense tous les dimanches, je me dis je suis là, c'est génial, on est là. J'ai entendu une belle prédication, des très très beaux chants, puis le dimanche d'après, c'est mort, c'est complètement chassé. Il faut recommencer à remettre de l'émotion, de la sincérité, de la foi, du partage. Et ces 22 000 vies, journées que j'ai eues jusqu'à maintenant, ces 22 000 naissances, ces 22 000 morts, ces 22 000 jours à vivre. Chacun avec sa vérité. C'est inutile de se poser sur ce qu'on a vécu avant, et c'est inutile de se poser sur ceux qui viendront après. C'est celui qui est là qui compte. Et pour nous chrétiens, il y a chaque jour cette question qui revient à chaque réveil. Est-ce que Dieu est encore là avec moi? Quand j'étais jeune, à un moment, j'avais rencontré une femme. Ah, ça y est. Je sentais le cœur qui battait, ce n'était pas arrivé depuis très longtemps, c'était après mon divorce, je me disais que c'était fini, pom pom pom. Et dès le moment où j'ai senti cette flamme, je me suis dit, pourvu que ça tienne. Et chaque jour où j'allais me réveiller, ou quand je la revoyais, je me disais, est-ce que mon cœur va faire tap-tap à nouveau? Puis au bout de 10 jours, moment, il n'y a plus le toc-toc. Mais je le pressentais, mais j'attendais, c'était ma terreur. Est-ce que quand je me lève, que j'ai eu ma petite mort de la nuit, que je me réveille le matin, est-ce que ça va battre à nouveau? Et puis à un moment, ça n'a plus battu. Et quand on se réveille le matin, on devrait tous se poser cette question, mais c'est curieux parce qu'on ne se la pose jamais. Si on a vraiment rencontré Dieu, on ne se pose jamais la question, est-ce que j'aime encore Dieu? Et on se pose encore moins la question, est-ce que Dieu m'aime encore? Souvent, je me lève le matin, je dis, est-ce que j'aime encore mon père, ma mère, quand ils étaient vivants? Certainement, j'en avais ras-le-bol. Est-ce que mes amis, j'aime? Alors, mon conjoint, ma conjointe, ça n'existe plus, mais vous pouvez poser la question pour ceux qui en ont. Même nos propres enfants, On se lève le matin, est-ce qu'on aime nos enfants? Évidemment. Est-ce que eux nous aiment? Puis à certains moments, hein, c'est moins sûr. Mais Dieu, c'est incroyable, en y réfléchissant, je ne me suis jamais posé la question depuis ma conversion à 21 ans, est-ce que j'aime Dieu? Est-ce que Dieu m'aime? C'est une évidence absolue qui survit à toutes mes naissances et à toutes mes morts. Et je me dis, mais pourtant, toutes les personnes auprès de qui je me demande si elles m'aiment encore ou si elles ne m'aiment pas, je vais faire des efforts vers elles. Je vais leur parler, je vais leur téléphoner, je vais essayer de savoir comment. Et Dieu, je ne ferai rien en étant sûr de cet amour réciproque. Mais ce n'est pas comme ça que ça devrait marcher. Chaque jour, on devrait se réveiller en se disant, la flamme qui vient de lui vers moi, elle y est. Parce que quand on a cette certitude de Dieu, elle ne nous abandonne jamais. Ça, c'est extraordinaire, même dans les pires moments. Mais dans l'autre sens, est-ce que lui, quand il se réveille le matin, excusez-moi cet anthropomorphisme, est-ce qu'il ne se demande pas, est-ce qu'il m'aime encore? Est-ce qu'il a pensé à moi? Est-ce qu'il a encore sa petite flamme, comme moi j'avais pour cette femme? Il se la pose, cette question. Alors l'image est un peu faible, un peu facile, mais je n'ai pas trouvé mieux. Qu'est-ce qu'on fait pour le rassurer? Chaque jour est une nouvelle conversion, doit être une nouvelle conversion, rien n'est acquis. Chaque jour doit être une retrouvaille avec Dieu. La Bible est notre lieu de rendez-vous. C'est notre ligne directe avec lui. J'aime quelqu'un, s'il est loin, je lui téléphone. Dieu sait, pour ceux qui ont des enfants loin, les avoir au téléphone, c'est un bonheur. J'ai mon smartphone. Il est là, obligatoire au quotidien. Pas une journée que la personne qu'on aime vraiment sans avoir envie d'avoir de ses nouvelles. Et nous, on aurait notre téléphone, on le laisserait sur le bord de notre table, notre table de nuit, et on ne ferait pas le numéro. Ce n'est pas possible. Chaque jour est une conversion renouvelée. Chaque jour est un nouveau jour, une nouvelle naissance, parce qu'on ne sait pas si ce ne sera pas nos derniers jours en plus. Mais surtout, chaque jour est un moment à partager avec lui. Et c'est pour ça qu'il faut lire la Bible chaque jour. Elle nous apprend à connaître Dieu. Elle est notre histoire. Elle nous révèle l'avenir. Elle nous permet de distinguer le vrai du faux. Elle nous guide. Elle nous transforme. Elle a la solution à nos problèmes. Elle regorge de mystères que nous avons à résoudre. Elle est une arme. Elle est toujours d'actualité. Et surtout, elle est vivante. Elle est vivante. Je vais relire Romain Gary. Ce que je vais faire revivre, c'est mes souvenirs. Des émotions que j'ai eues en le relisant, avec qui j'étais, qui m'a offert le livre, etc., etc. C'est de la nostalgie. Relire la Bible, je dis bien relire la Bible, c'est entrer chaque fois dans mon présent. C'est ma barre de céréales pour vivre ce nouveau jour qui s'annonce. Alors, quand j'ai reçu mon cadeau de Noël, et je remercie tous les autres cadeaux de Noël, évidemment, mais quand j'ai reçu mon cadeau de Noël de Dieu, et non pas ceux-là du Père Noël, je me suis dit, cette année, tu t'y remets. Parce que jusqu'ici, je butinais, depuis quelque temps. Surtout quand j'avais des prédications à faire. Du coup, dans la semaine avant, je commençais à lire, puis une fois, je lisais, je mettais. Non! Non! J'ai oublié de vivre. C'est la chanson. J'ai oublié de vivre. Alors, cette Bible en un an, évidemment, c'est une solution. Pour moi qui suis assez cartésien, ça me rassure. Je me dis que si je fais le boulot chaque jour, et en termes de boulot, vous voyez, c'est bien, si j'ai cette joie chaque jour, à la fin de l'année, mon trou, il sera bien creusé. J'aurai terminé. Avec la satisfaction du devoir accompli quand Dieu dit, là encore, Dieu fit, il vit que cela était bon. Se dire que on aura fait quelque chose de bien. Vous savez, quand David fait des choses mauvaises, il prend Betséada, etc., enfin, il y a marqué, cela déplut à Dieu. Mais je sais que si je lis chaque fois, ça va plaire à Dieu. Et que la petite flamme, lui, il la verra. Et que moi, ça va me faire un bien, mais un bien fou, et je le sais d'expérience, mais il faut s'y remettre. Alors, certains préfèrent la lecture au hasard, D'autres disent je vais lire un livre après l'autre, etc. D'autres piochent des versets qui sont cloués sur le mur de la cuisine, vous savez, sur le truc qu'on rêve. Très bien. Mais moi, le paresseux du jardinage, hein, j'aime qu'on me prenne par la main. J'aime l'idée que chaque jour me mènera au bout d'un livre dans un an. Alors certes, elle a beaucoup servi, vous voyez, elle part dans tous les sens, mais elle est neuve à jamais. Et alors je ne vous dis pas d'acheter. On est le 3 janvier, vous avez le temps, vous n'avez que 2 jours de retard. Qu'importe, faites votre propre méthode. Mais ne nous éloignons pas de ce qui est essentiel dans notre foi. Faites l'expérience. Enlevez la Bible de chez vous, planquez-la pendant un mois. Même ceux qui la lisent très peu, à un moment, ils vont être en manque. Pas de l'objet en tant que tel, mais de ce qu'il y a dedans. Parce qu'on a toujours besoin d'y recourir, d'y retourner, de lire des trucs. Mais c'est du papillonnage. C'est comme moi qui veux planter mes tomates une de temps en temps. Non, non, faut, chaque jour, il faut bêcher, hein, faut sarcler, etc. Enfin, je dis n'importe quoi parce que j'y connais rien, mais je pense que c'est ça. Soyons durs avec nous-mêmes. De cette discipline dont Paul parlait, mais qui est une discipline qui ne peut apporter que du bonheur. Alors, j'aimerais faire une expérience avec vous. Ça fait une demi-heure que je parle, donc il me reste du temps, c'est bien. Parce que je vous dis des trucs, mais il faut le mettre en pratique. Sinon, ça ne sert à rien. C'est encore du blabla, le blabla dont je vous parlais auparavant. Que voilà. J'avais évidemment préparer des telles belles choses sur le 1er janvier que j'avais découvert et le 2 janvier en disant regardez ce qu'on dit, c'est extraordinaire. Entre autres sur le 1er janvier, ça quand même je vous le dis parce que ils avaient marqué, donc c'était un extrait, donc ils prennent les livres, ils prennent un peu de l'Ancien Testament, un peu de Proverbe, un psaume, un peu du Nouveau Testament et puis ensuite ils suivent les livres comme ça, mais tous en parallèle. Et j'avais vu je n'ai pas eu depuis très longtemps ce prologue des Proverbes. Ces proverbes apprennent à l'homme à se conduire avec sagesse et à accepter les recommandations. Ils lui donnent à comprendre des paroles pleines de sens. Ils enseignent à vivre de façon intelligente en ayant un comportement juste, équitable et droit. Ils donnent des exemples de bon sens aux ignorants, des connaissances et des sujets de réflexion aux jeunes gens. Même les sages les consulteront avec profit. Même les intelligents y trouveront des directives. Ils pourront comprendre le sens caché de certains proverbes et des propos énigmatiques de ceux qui enseignent la sagesse. On pourrait écarter ce prologue à la lecture de la Bible. Regardez tout ce que ça va apporter. Et je me suis dit, je ne vais pas préparer quelque chose sur le 1er et le 2 janvier sur des textes magnifiques. Je vais mettre en pratique ce que je vous dis de faire. On va lire le 3 janvier. Je ne l'ai pas lu exprès. Je me suis dit, quand même, vas-y, lis un peu. Non, je ne lis pas le 3 janvier. Je suis dans la situation où nous sommes tous. Je prends mon livre, alors là, c'est le 3 janvier, chacun prend sa méthode. Hein. Moi, c'est celle de la Bible en un an. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Les livres vont être pris à tort et à travers. Donc, je vais découvrir avec vous le 3 janvier. Donc, c'est sans doute des textes que je connais, que je n'ai pas lu depuis longtemps, ou certains. On va les lire. Il y en a pour 10 minutes. Parce que lire la parole, c'est notre boulot de chrétien en premier. Lisons la parole. Et puis ensuite, j'essaierai, en direct, c'est une impro, de dire ce que ça m'a apporté. Comme si je l'avais lu ce matin dans mon lit ou sur ma table de petit déjeuner et dire ben voilà, tiens, aujourd'hui pour me nourrir de ce nouveau jour, de mon 2001e jour de ma vie, voici la flamme que j'ai reçue de Dieu. Alors, on y va. Donc il y a 4 textes. Donc en même temps, Gilles va nous les projeter, donc vous pourrez les lire. Et moi, je vais les dire avec ma voix, comme ça, c'est un peu plus. Je vais lire les 4 à la suite. Et puis ensuite, j'essaierai. C'est une. Voilà, je suis en situation de ce qu'on, dans laquelle on devrait tous être. Pas besoin d'avoir fait 1000 études auparavant. Qu'est-ce que la Bible me dit? Puisque Dieu me dit qu'il me parle. Et il m'a donné ça. Eh bien, écoutons-le. Peut-être que je ne vais pas comprendre, ou je ne vais pas recevoir de choses comme ça, mais simplement, ça va me nourrir. Et puis, dans la journée. Il y a des choses qui vont ressortir. Alors la première, c'est Genèse. Donc au 3 janvier, on en est à Genèse 5, du verset 1 au Genèse 7, verset 23. Alors, donc c'est parti. Alors je vous en supplie, ne le prenez pas comme ah ben c'est pas une prédication ça. Il lit la Bible, c'est bon. Bah si, c'est une prédication. C'est le plus important. C'est lire sa parole. Moi je suis un rigolo, je suis un gouniafier, je suis un clown. C'est lui qui me dit des trucs. Donc on devrait à la limite que lire. Alors on y va. Donc faites-le avec joie, bonheur. Soyez heureux, c'est le meilleur, c'est le cadeau. Sinon, c'est du spectacle. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit, il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Seth, âgé de 105 ans, engendra Enoch. Seth vécut après la naissance d'Enoch 807 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Seth furent de 912 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 90 ans, engendra Kenan. Enoch vécut après la naissance de Kenan 815 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 905 ans, puis il mourut. Kenan, âgé de 70 ans, engendra Mahalalel. Kenan vécut après la naissance de Mahalalel 840 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Kenan furent de 910 ans, puis il mourut. Mahalalel, âgé de 65 ans, engendra Jéred. Mahalalel vécut après la naissance de Jéred 830 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Mahalalel furent de 895 ans, puis il mourut. Jéred, âgé de 162 ans, engendra Enoch. Jéred vécut après la naissance d'Enoch 800 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jéred furent de 962 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methuselah. Enoch, après la naissance de Methuselah, marcha avec Dieu 300 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Methuselah, âgé de 187 ans, engendra Lémec. Methuselah vécut après la naissance de Lémec 782 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Methuselah furent de 969 ans, puis il mourut. Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé en disant « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. » Lémec vécut après la naissance de Noé 595 ans, il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Lémec furent de 1777 ans, puis il mourut. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japhet. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et fut affligé en son cœur. L'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra trois fils, Sem, Cham et Japhet. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair et en souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi, tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Deux de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi sept coupes de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, sept coupes aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours, je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs, les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé, deux à deux, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. 7 jours après les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japhet, fils de Noé, la femme de Noé et les trois femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tous les bétails selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, deux à deux, de toute chair ayant souffle de vie. Il en entra, mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Et le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les autres montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans les narines et qui était sur la terre sèche mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre, il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Je ne savais pas que c'était ça. Si j'avais su, je me dis, non, je ne suis pas de chance, je suis tombé sur toute la généalogie. Eh bien moi, voilà, j'ai découvert ce texte, il m'a nourri d'une chose extraordinaire. Je vous le dis comme ça, rien n'est préparé. Toute la généalogie du début, en la lisant, comme ça, je me suis dit, mais on est tous le fils de quelqu'un, on est le temps qui passe, on arrive, on vit, on meurt, mais on a ça parce qu'on descend d'une histoire, d'une tradition, d'une famille, et que nos jours sont importants, mais que ce qui est important aussi, c'est sans doute plus important, c'est le fait d'être d'une lignée, et qu'on n'est pas seul sur Terre, j'arrive, donc je ne peux pas me permettre dans ma vie de tous les jours, dans ma vie d'aujourd'hui 3 janvier, d'être moi je, parce que je sais d'où je viens, alors ce n'est pas cette généalogie-là, mais c'en est une autre, et je ne sais pas ce qui va continuer avec ceux qui vont me poursuivre, mais j'ai ma place dans l'existence, ni plus, ni moins. Deuxième chose qui me vient, c'est que Dieu sait toutes choses, il compte même les animaux, il sait exactement combien, il prend garde à tout. Donc moi, dans ma vie du 3 janvier, peut-être prends garde plus à chaque chose, à chacun, peut-être pas à chaque fourmi, quoique, mais à tout ce qui est autour de toi, si lui a été capable de comptabiliser tout ça, de se rendre compte que dans le cœur de chaque homme, il y avait du mal, comment toi, le 3 janvier 2021, tu ne vas pas faire attention à ça? Troisième chose qui me vient, c'est que je vous parlais des énigmes. Il y a un truc sur les géants, les femmes qui sont géants, c'est quoi cette histoire-là? Je ne peux pas répondre. Mais peut-être que du coup, tiens, ça va m'ouvrir, je vais sur Internet, je trouve un bouquin, je téléphone à Yann Banquetel, je ne sais pas, et il me dit, est-ce que tu peux m'expliquer ça? Et peut-être que cette porte-là va m'en ouvrir une autre. Je ne sais pas, c'est pas grave. J'ai été nourri de quelque chose, tiens, une plante qui va pousser plus tard. Dernière chose que je dis comme ça, évidemment que l'histoire de Noé, on connaît, mais je viens de voir que, regardez, l'an au verset 10, 11 du chapitre 7, l'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois. Quand je vous dis que chaque jour est particulier, Ce jour-là, il est particulier. Il s'est passé la fin du déluge, etc., ou le début, je ne sais plus. Et moi, le 3 janvier 2021, il va forcément non pas se passer quelque chose, mais c'est un jour particulier. Si Dieu est capable de noter ce jour-là, c'est qu'il est capable de noter chaque jour avant et chaque jour après. Donc chaque jour est spécial, chaque jour est particulier. Et moi, Luc, ce 3 janvier 2021, je dois le vivre comme étant un jour spécial pour Dieu, qu'il a fait pour moi. Je continue, je ne vais pas plus loin, ce n'est pas le but. Je découvre avec vous, et voilà comment moi ça me nourrit. Vous, peut-être que ça vous a nourri d'une autre façon, selon votre résonance, votre propre histoire. Alors après, il nous propose de lire le psaume 3. Donc je lis le psaume 3. Il est très court. Heureux, on est heureux de découvrir le psaume 3. On est heureux. C'est pas un pensum. C'est Dieu qui parle, Dieu qui nous parle. C'est la flamme qu'on ravive. Perdons pas ça de vue. Psaume de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel, il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors et je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les milliers de personnes qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Qu'est-ce qu'il y a besoin de dire? Semblant que, tiens, ils m'ont parlé de Noé, tous les hommes étaient mauvais, ça continue. Les hommes sont encore mauvais, mais moi, je suis le Noé qui a été sauvé, et là, j'ai Dieu qui est avec moi. Et bien moi, 3 janvier 2021, si ça me nourrit pas, simplement par l'écho des paroles que j'entends, de ces promesses que Dieu est avec moi et du cri que je pousse, c'est que si ça ne me parle pas, si ça ne me nourrit pas, ce 3 janvier, c'est que je ne suis pas avec Dieu. Et ensuite, il propose de lire un extrait des Proverbes 1, 8 à 19. C'est grave, là. Oui, c'est après. Hein. Tu vois, un peu, là, je suis pris en flagrant délit, là. 8 à 19. Donc on avait fait forcément donc le 1 et le 7 avant. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence, engloutissons-les tout vifs comme le séjour des morts et tout entiers comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butin nos maisons, tu auras ta part avec nous, il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux, détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal, ils ont hâte de répandre le sang. Mais en vain jette-t-on le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes, et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches, c'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain, la cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Là encore, on pourrait faire quelque chose, mais c'est si Dieu ne vous parle pas là, il parle à qui quoi? Et enfin, ils nous permettent de terminer par Marc, donc c'est après 3 de l'Ancien Testament, il y a toujours une lecture du Nouveau Testament. Alors Marc 2, 3, 16, 2, 3 à 3, 6, pardon. 2 chapitre, excuse-moi, Marc chapitre 2, verset 13. Voilà. Ouais. Donc là, je ne lis pas dans le petit, hein, parce que c'est plus gros, etc. Donc si j'ai 4 problèmes de lecture, c'est que je ne les ai pas lus avant, hein, c'est bien la preuve que. Je triche pas avec vous. Donc, verset 13, ils nous reprennent au moment. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui, il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Quand on lit le Nouveau Testament, ben c'est un truc que je fais. On a la chance d'avoir des images. Parce qu'on a vu des films, on a vu des tableaux, etc. Et quand il dit Jésus, c'est le privilège de la lecture, c'est qu'on peut se créer notre propre monde. Il faut vraiment, surtout le Nouveau Testament, les évangiles et les actes, c'est des choses vivantes encore. Il faut vraiment se créer les images de l'histoire que ça nous raconte. Jésus, Dieu nous raconte une histoire. Prenons-le comme ça. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus, ayant entendu cela, leur dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux ? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront ce jour-là. Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux et la déchirure serait pire. » Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement le vin fait rompre les outres et le vin et les outres sont perdus. Il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent, « Voici, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat ?» Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et tous ceux qui étaient avec lui ?» Comment il entra dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur Abiathar et mangea les pains de proposition qu'il n'est permis qu'au sacrificateur de manger et en donna même à ceux qui étaient avec lui. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le fils de l'homme est maître même du sabbat. Jésus entra de nouveau dans la synagogue, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi. Là, au milieu. Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et aussitôt, ils se consultèrent avec les Hérodiens sur le moyen de le faire périr. Commentaire. En plus, ça a pris 20 minutes. Donc, si je me tais, avec vos yeux, c'est 15 minutes. Tout ce qu'on vient de lire là sur Jésus, ça, cet amour qu'il a pour nous, cette intelligence qu'il met en place pour répondre à ses détracteurs, ce besoin de nous guérir à tout prix, chacun va le lire à sa façon. Mais nous ne nous sentons pas obligés de le comprendre tout et de dire qu'est-ce qu'il a voulu dire de manière théologique, etc. Non. Je suis sûr que ce dernier texte, par exemple, tout le monde l'a pris. Et si on devait faire une interrogation écrite, chacun dirait quelque chose de différent sur ce qu'il a reçu. C'est ça, lire la Bible. C'est écouter Dieu. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que moi, je vais de nouveau prendre un rythme plus soutenu que je fais habituellement. Chaque jour, je vais lire ça. Je dis, je vais me forcer. C'est encore pas le bon terme. Peut-être me forcer au début, mais c'est pas bien. C'est une joie, c'est déjà une joie. Depuis le 1er janvier, je suis déjà super heureux de me dire, ça y est, j'ai retrouvé ce rythme. Mon Dieu, que c'est bien qu'on m'a offert tous ces livres inutiles qui ont fait que quand je voulais les mettre dans ma bibliothèque, elle s'est cassée et que c'est celui-là qui est tombé sous mes pieds que j'ai perdu au fond du truc. C'est le cadeau de Dieu, c'est le cadeau qu'il nous donne. Alors, pas de résolution, d'accord, mais si. Ayons cette résolution, chacun à sa manière, chacun à sa méthode. Si vous ne l'avez pas fini dans un an, ce n'est pas grave. Je m'en fiche. Mais que chaque jour, dans notre église, nous tous, frères et sœurs, on sache qu'à un moment, chacun le matin, parfois à midi, le soir, à minuit, pendant un sommeil, je ne sais pas. Il y aura toujours un d'entre nous qui lira, une d'entre nous, sa Bible, qui aura le contact avec Dieu. Et Dieu, là-haut, à aucun moment, il se dira, est-ce qu'ils ont encore la flamme, puisque cette flamme, la nôtre, multipliée par tous les millions de chrétiens, ça doit sans cesse monter vers lui. Et en échange, ça nous nourrit, ça nous nourrit. Je suis sûr que notre église, alors à titre simplement de petite église, elle peut que avoir, se faire un bien énorme si chacun fait cet effort de se replonger dans ce qui est la base de notre foi. L'unique raison de notre présence ici, c'est la Bible. Tout le reste, c'est du blabla. Alors, ça peut être bien organisé, des belles musiques, des beaux prédicateurs et encore des très beaux présidents, ça oui, des belles décorations, des belles fêtes, ce que vous voulez, des beaux internets. Mais c'est du pipeau. C'est du pipeau si on n'est pas nourri chaque jour de ça. Voilà. Rendez-vous dans un an. Je demanderai d'être le prédicateur du 2 janvier ou du 4 janvier et je vous ferai le bilan de mes lectures, et peut-être qu'entre-temps, j'aurai eu le temps de lire ça aussi. Voilà.